RCF.
Point d'interrogation, l'émission qui s'interroge, en collaboration avec le magazine franc-comtois numérique, participeprésent.net.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à Point d'interrogation. Aujourd'hui, nous revenons à la nature. Alors, nous nous intéressons au castor. Le castor, bien sûr, c'est une espèce qui est protégée. La présence de ce castor dans une rivière ou sur un plan d'eau entretient bien le milieu, il diversifie la faune et la flore. Donc le castor est très intéressant. Il est revenu dans le Jura. Malgré tout son intérêt écologique, son retour cause parfois quelques problèmes de cohabitation avec les agriculteurs, avec d'autres personnes. On va en parler avec Vincent Dams de Jura Nature Environnement. Lui, il suit les castors depuis plus d'une quinzaine d'années. Vincent Dams, bonjour.
Bonjour à tous.
Pour un béotien, le castor, aujourd'hui, on a l'impression que c'est le Grand Nord, le Canada, les grandes distances. Au-delà, cette représentation, elle est un petit peu romantique. Alors, c'est quoi alors le castor? Où il habite? C'est une bête sauvage? Décrivez-nous un petit peu le castor.
D'accord. Donc à travers le monde, il y a déjà deux espèces de castors. Hein, le castor d'Amérique d'une part et le castor d'Eurasie. Donc le castor qui revient chez nous est une espèce autochtone, disparue depuis quasiment le Moyen-Âge. Un mammifère, c'est le deuxième plus gros rongeur au monde. Hein, 1m10, 1m20 de long, 30-35 kilos, le record étant 38 dans la vallée du Rhône. Donc c'est une espèce qui est comme la loutre, une espèce endémique de nos cours d'eau, qui se nourrit exclusivement végétarienne, qui se nourrit de feuillage, d'herbes aquatiques, et a retrouvé pleinement sa place dans nos rivières depuis une quinzaine d'années maintenant.
Son habitat, donc il est au bord des cours d'eau, mais il est organisé comment?
C'est des familles de castors qui ont un territoire de 2 à 3 km de cours d'eau en fonction de la disponibilité alimentaire. Donc il n'y a pas de surpopulation, comme on pourrait le penser à l'égard du ragondin par exemple. Un couple reproducteur avec 1 à 3 jeunes par an, 2 générations de jeunes, donc il y a un maximum de 6-8 individus sur un tronçon de 3 km. Et dès que la troisième génération se prépare, les adultes chassent les plus anciens des jeunes pour avoir une gestion raisonnée de leur territoire et de leurs ressources alimentaires.
Une fois qu'ils sont installés sur un secteur, finalement ils essaiment progressivement le long des rives, c'est ça?
Voilà, oui.
D'accord. Moi j'aime bien parce que je me suis renseigné un peu sur le castor, on dit que c'est une espèce ingénieure. Donc, il est adapté aux cours d'eau, hein, on vient d'en parler, mais il modifie aussi les cours d'eau. Pourtant, ceux-ci ont déjà été largement modifiés, et ça, c'est peut-être un des problèmes par l'homme au fil du temps. Alors, les impacts potentiels des castors sur les rivières franc-comtoises, puisqu'ils se réinstallent tranquillement, qu'est-ce qui se passe? Parce que je sais qu'ils font des barrages, ils font des terriers, voilà, comment ça se passe?
Donc la plupart du temps, le castor passe relativement inaperçu malgré sa grande taille et puis le fait qu'il ait besoin d'abattre des arbres pour en consommer l'écorce en hiver. Mais dans certains cas, là où notamment le réseau hydrographique a pas mal été rectifié, incisé, ou la ripisylve, donc la berge qui naturellement est boisée
incisé,
au bord des cours d'eau,
que la rivière est
descendue, s'est enfoncée du fait des rectifications. Là, le castor, on l'a notamment sur le bassin versant du Suran, donc en petite montagne, où le castor va faire des barrages pour garder de l'eau en été et remettre des zones humides là où les agriculteurs, notamment, les ont supprimés. Donc il va aussi, quand la berge boisée est bien présente, venir entretenir la ripisylve par des abattages, il régénère naturellement les cours d'eau. Et dans les secteurs où cette ripisylve a été un peu réduite à peau de chagrin, le castor peut s'attaquer à des arbres fruitiers, peut s'attaquer à des peupliers, donc la populiculture, voire même à quelques résineux, mais ça reste relativement anecdotique. Le seul gros conflit qu'on a actuellement, c'est notamment quand la berge donc boisée a été réduite à peau de chagrin, que les gîtes de castor, notamment pour prévenir des grosses crues hivernales, les gîtes vont être en retrait de la berge, vont se retrouver dans les prés. Là, les agriculteurs vont se retrouver avec des espèces d'embâcs qui n'en sont pas, qui hébergent une espèce protégée, et les broyages de fin d'hiver notamment peuvent vraiment mettre à mal l'espèce, et à l'inverse, par abandon des terriers qui auraient été broyés, les tracteurs peuvent tomber dans ces trous, voire même, c'est arrivé, tomber carrément dans la rivière. Donc il y a tout un travail avec les agriculteurs de définir une bande, entre guillemets, refuge, où on laisserait tranquille la faune, la flore et le castor, parce qu'il a besoin d'avoir une profondeur de berge intéressante pour supporter les différents niveaux de crue de nos cours d'eau.
Moi, je suis assez fasciné par la construction des barrages par les castors, là. Et Et ils font des barrages de grande longueur, solides, ils tiennent les crues, ces barrages.
La plupart du temps, c'est des tout petits barrages temporaires, hein, pour, je vous le dis, supporter un peu les soutiens, les débits d'étiage sévères qu'il peut y avoir dans nos cours d'eau. Mais on a quelques cas, notamment la rivière de la Creuse, sur la commune de Verrias, sur le bassin versant du Suran, où on a deux barrages, un de 12 mètres de long, à la confluence de deux rues qui ont été rectifiées, qui là tient le coup depuis 8 ans, et un plus récemment, là, qui fait 25 mètres de long, quasiment au niveau des sources de la Creuse. Donc là, ces barrages-là sont faits pour durer. Et ce qui est intéressant de voir, c'est voir comment la nature, l'écosystème se réapproprie ces milieux à nouveau réinondés, avec tout le retour des amphibiens, de la flore aquatique, etc. On est sur des secteurs avec des valeurs agronomiques des prés relativement faibles. Donc voilà, et ils lui donnent pas 20 hectares comme on pourrait l'avoir dans le Canada. C'est quand même des petites surfaces. Mais voilà, chaque mètre carré repris par la nature au milieu agricole pose souvent souci. Et là, c'est par l'échange et la concertation avec les agriculteurs qu'on peut trouver des terrains d'entente pour aboutir à une bonne conciliation.
Eh bien, on va en parler après avoir fait une petite pause et puis on reviendra donc sur les actions en cours pour faciliter l'arrivée du castor et bien sûr sa cohabitation avec tous les Jurassiens.
Point d'interrogation sur RCS Jura par Claude Borcard du club des lecteurs du magazine Franc-Comtois numérique participeprésent.net.
De retour avec Vincent Dams, donc de Jura Nature Environnement. On parle castor dans les rivières jurassiennes. On a parlé de l'impact du castor sur les rivières, mais le castor, c'est aussi un jardinier, c'est pas qu'un ingénieur. Il participe à la régénération de la biodiversité. Et donc, il a une action très positive. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette action positive?
Eh bien, on va dire que le castor respecte le code rural, c'est-à-dire que les berges boisées doivent être entretenues par le propriétaire. Sur son territoire, le castor va entretenir ses boisements. Alors, il va pas forcément s'attaquer à des gros arbres, sauf si la ressource alimentaire vient s'appauvrir, mais il va surtout entretenir la strate arbustive et les jeunes arbres qui ont une capacité de recépage. Il va beaucoup se nourrir notamment de frênes, de saules, de peupliers, qui ont des propriétés naturelles de se régénérer. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de boisements non entretenus qui sont sénescents. Bah lui, le castor, empêche cette sénescence en recépant régulièrement ces arbustes-là, avec un intérêt pour refixer les berges. Vous savez que quand vous recépez un arbre, ça densifie le système racinaire, donc ça fixe encore plus les berges. Donc il fait ce travail-là, entre guillemets, gratuitement. Et bon, on a évoqué l'histoire des barrages, ça fait des belles zones de retenue où le frêle, notamment les amphibiens, où ça peut faire des zones refuge pour les poissons. Voilà, donc sur son territoire, en fait, il va régulièrement, donc ces 2-3 km de tronçon, il va exploiter une année par rapport à une autre, un secteur qui va délaisser pendant quelques années le temps que ce milieu se régénère. Il va attaquer une autre zone et il va avoir une rotation comme ça, comme on ferait une rotation dans notre potager. Pour pas épuiser le sol, bah lui, il épuise pas ses ressources alimentaires.
Donc c'est un jardinier, mais en plus, il a un travail assez complet de régénération sur un territoire.
Ah oui,
tout le long des rives d'une rivière.
On a de nombreuses études scientifiques qui arrivent maintenant à le démontrer, que voilà, le castor est garant de l'entretien de la biodiversité, de l'amélioration de la biodiversité, de quelques milieux aquatiques que ce soit, un cours d'eau ou un plan d'eau.
D'accord, donc peut-être on parlera dans un deuxième temps des phénomènes préjudiciables à son développement, parce que les humains, ils sont peut-être pas toujours coopératifs, mais actuellement, dans le Jura, alors on peut dire deux mots de là où c'est en cours de réimplantation.
Donc là, il est très bien implanté donc sur le bassin versant du Suran, sur la rivière du Doubs et de la Loue, avec des points de colonisation, ça y est, il arrive à revenir sur l'Aurin, sur la Loue aussi depuis quelques années, sur la Cloche aussi, au sud de Dole. Donc grosso modo, il est présent de partout dans le Jura, à l'exception de la moyenne vallée de l'Ain, qui est court-circuitée par les imposants ouvrages hydroélectriques d'EDF. Mais on a mis en évidence en début d'année que le castor avait réussi à franchir 3 des 4 barrages en aval de Vouglans. Donc il a des capacités un peu comme la loutre à pouvoir contourner ces barrages avec d'énormes difficultés. Mais il y a un suivi qui est fait. On espère que dans quelques années, toutes les rivières du Jura et même de Franche-Comté soient colonisées à nouveau par l'espèce.
D'accord. Donc le phénomène est en plein développement. Les humains sont quelquefois d'accord, pas toujours. C'est quoi les phénomènes bloquants par rapport à la réimplantation et comment peut-on préparer son arrivée dans certains secteurs, parce qu'il va encore coloniser d'autres rivières, je pense.
Ouais. Bah, le principal souci qu'on a par rapport au castor, c'est qu'il a complètement disparu de notre mémoire collective. La dernière trace de castor dans le Jura remonte à l'époque mérovingienne, sur le bassin versant de la Seille. Donc on l'a fait disparaître depuis presque 1000 ans. 1500 ans. Et par contre, dans ce laps de temps, on a vu venir le ragondin, espèce sud-américaine, classée nuisible. Et donc, il y a un énorme amalgame entre un ragondin et castor qui est même en plus trois fois plus gros. Et donc, d'énormes craintes à se dire, on a un super ragondin qui va nous faire des super dégâts. Donc, il y a tout un échange à faire, une concertation avec les acteurs locaux. Et en ça, donc, le conseil régional nous finance un plan d'action régional 2014-2016. Donc, on fera le bilan en fin d'année pour consacrer du temps à informer, sensibiliser et former les acteurs locaux, agriculteurs, élus, propriétaires, au retour de cette espèce qui paraît complètement invraisemblable, mais qui est en fait une énorme pièce de puzzle qui manquait à la composante de nos écosystèmes aquatiques.
Donc on part d'un problème de communication, parce que le ragondin, c'est une espèce nuisible, remplacée ou... Alors, ils sont compatibles, ragondins?
Il n'y a aucune animosité entre les deux espèces, aucune concurrence alimentaire, et non, il n'y a aucun souci.
Et ils sont implantés dans les mêmes endroits?
Ils peuvent cohabiter, oui.
Il y a une cohabitation possible. Mmh. Alors, quand vous travaillez dans le cadre de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire le contrat avec le niveau régional, quels arguments vous employez alors?
Ben l'intérêt, c'est, on va rentrer un peu dans la technique, mais c'est la région doit faire un énorme schéma, on appelle ça le schéma de cohérence écologique, donc trouver l'énorme réseau de trames vertes et bleues qui structurerait nos paysages et notre patrimoine naturel, que ça soit dans les milieux agricoles, forestiers, aquatiques, etc. Et donc là, le castor est utilisé comme une espèce emblématique de la bonne qualité de nos corridors écologiques aquatiques, c'est-à-dire le milieu aquatique, mais les berges boisées aussi. Et donc c'est par cet axe-là qu'on peut réussir à avoir du temps à consacrer à l'accompagnement de nos acteurs locaux, sachant qu'il y a de plus en plus de restauration de cours d'eau, de réimplantation de ripisylves. Voilà, bah donc c'est ce castor, avec ce capital sympathie quand même qui est non négociable, voilà, nous permet une porte d'entrée efficace, sachant que son statut d'espèce protégée aussi nous fait exiger d'accompagner les acteurs qui peuvent subir quelques dégâts ou quelques transformations de leur paysage et de leur propriété.
Eh bien, merci à Vincent Ordam de nous avoir fait beaucoup mieux connaître cet animal sauvage. Il est bien sympathique, effectivement. Il parle bien à l'imaginaire des enfants. Bonne semaine à tous, à bientôt pour un nouveau point d'interrogation.
C'était Point d'interrogation en collaboration avec le magazine franc-comtois numérique participe-présent.net.